Donc, bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Denis Salas, qui est magistrat et essayiste. Il dirige la revue Les Cahiers de la Justice et préside l'Association française pour l'histoire de la justice. Dans son dernier essai, Denis Salas décrypte les réactions de la société civile au lendemain des attentats terroristes, attentats auxquels il a malencontreusement participé puisqu'il a été témoin des attentats de Nice. Voilà, je vous laisse présenter. Vous vous rendrez compte à la lecture que c'est un ouvrage, c'est un essai, mais c'est aussi un bel ouvrage empreint de beaucoup de poésie et beaucoup de symbolique que vous retrouverez, beaucoup de références à de la littérature. Et j'espère que vous apprécierez cette soirée. Voilà, je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup de cette présentation. Alors, il m'a été demandé de vous parler environ 30-35 minutes pour vous parler un peu de ce livre. Et puis ensuite, on n'est pas très nombreux, donc on pourra discuter plus facilement. Alors oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce livre est né d'une expérience que j'ai faite à titre personnel. Je me trouvais à Nice, si vous voulez, le soir de l'attentat du 14 juillet 2016, vous savez, l'attentat au camion, qui a fait 86 morts et d'innombrables blessés. Et si vous voulez, la rencontre directe avec cette expérience a résonné profondément en moi, parce que nous ne sommes pas, si vous voulez, habitués à cette rencontre avec la mort violente, avec une scène de guerre, avec des corps sur la chaussée, avec avec l'impensable, je dirais, ceux vis-à-vis desquels nous ne sommes absolument pas préparés. Moi-même, je suis un enfant d'Algérie, comme notre ami Claude Jorda, que je salue, qui est ici présent. Et je me souviens que dans mon enfance, j'habitais à Oran, et il y avait des attentats de l'OAS en 62. Et l'OAS avait pour pratique, non seulement le terrorisme était des deux côtés, hein, du FLN et de l'OAS, mais je me souviens plus particulièrement des attentats de l'OAS. Et il y avait effectivement ces attentats qui frappaient n'importe qui, n'importe quand, n'importe quelle heure. Et les corps restaient sur la chaussée. Il était absolument interdit de les toucher, sinon, effectivement, vous encourriez la même punition. Il fallait terroriser, c'est-à-dire semer la terreur et abandonner les corps à leur triste sort. Et alors, cette violence-là, je l'avais vécue dans ma prime enfance, et je l'ai retrouvée, si vous voulez, sur la promenade des Anglais. Et ça a provoqué, si vous voulez, un moment fondateur qui m'a conduit à réfléchir à cette expérience et à aller plus loin, si vous voulez, et à travailler la question du non pas du terrorisme au sens du djihadisme et de ses causes. Il y a d'excellents livres là-dessus, je ne suis pas spécialiste, mais la manière d'une société civile, nous, vous et moi, vivons cette expérience et comment, si vous voulez, nous la traversons. Alors, ça, c'est mon point de départ, si vous voulez, cette rencontre avec le mal, mais aussi cette rencontre avec la fraternité. C'est-à-dire que quand dans cette soirée, j'ai vécu des moments de sidération, mais en même temps des moments de grande fraternité, parce que les gens étaient très solidaires entre eux. Les gens étaient totalement perdus, montés, couraient dans la rue, certains photographiaient, d'autres pillaient les corps, etc. C'était un peu apocalyptique. Mais en même temps, vous aviez, si vous voulez, un besoin de trouver refuge, de trouver du réconfort auprès de telle ou telle personne. Certains ont hébergé provisoirement des familles entières dans leurs appartements qui étaient le long de la promenade des Anglais, etc. Donc, si vous voulez, le mal et en même temps le contraire du mal, c'est-à-dire la fraternité et la solidarité. Et je tiens à cette dualité, si vous voulez. Il n'y a pas eu seulement cette expérience du massacre et du silence, il y a aussi cette expérience de la fraternité. Et puis, ça, c'est le point de départ de ce livre. Et puis, le point d'arrivée, c'est une visite que j'ai faite à New York sur le site de Ground Zero. Sur ce site, vous avez deux choses. Vous avez un mémorial avec un immense espace où les cascades d'eau plongent dans le sol et où vous avez les noms qui sont, si vous voulez, gravés dans une cuve en marbre. C'est le mémorial, la mémoire des noms, la mémoire des morts qui est là. Et puis vous avez un musée dans les profondeurs de la tour, dans les sous-sols, immense. C'est les fondations des deux Twin Towers. Et dans ce musée, vous avez quoi ? Vous avez à la fois, si vous voulez, une explosion de carcasses de voitures ou de ruines de bâtiments tels que l'effondrement des tours les a laissés encore debout. Vous avez tout cela. Moi, j'ai vu, si vous voulez, une métaphore, évidemment, la métaphore de la souffrance des hommes à travers la souffrance de la pierre. La pierre est omniprésente, le métal en fusion aussi, mais vous savez, les corps n'ont jamais été présents au moment de cet attentat. La censure, mais aussi l'auto-censure des médias et du gouvernement américain a interdit qu'on les voit. Et encore, dans le reportage récent qu'on a vu à l'occasion de l'anniversaire, on n'a vu aucun mort, aucune victime. Par contre, vous avez dans ce site, vous avez un tombeau. Vous avez, avec une magnifique phrase de Virgile, vous avez, parce que si vous voulez, 40% des corps n'ont pas été identifiés et donc ont été réunis dans un tombeau qui se trouve dans ce mémorial et qui, effectivement, crée cette espèce de mélange entre la présence sourde des corps anonymes, dont on ne sait pas très bien s'ils sont mélangés à ceux des terroristes, une question qui s'est posée pour les victimes en particulier. Et puis, si vous voulez, la figure du mémorial comme si vous voulez, un hymne patriotique à la gloire du régime américain. Ça ne va pas vous étonner, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, un grand mouvement d'élan où toutes les victimes sont héroïsées, dans la lutte contre le mal, contre l'empire du mal, Ben Laden, ça se termine, vous avez plusieurs salles, dont une se termine par la mort de Ben Laden, qui est le cheminement habituel, et puis vous avez cette figure omniprésente de la lutte contre l'empire du mal, et vous avez plusieurs postes de télévision qui vous racontent, George Bush et beaucoup d'autres, comment il faut lire font l'exposition. Donc voilà, c'est ces deux moments-là qui ont été fondateurs et qui m'ont incité à écrire ce livre parce que si vous voulez, je voulais retrouver l'itinéraire, non pas de ces victimes héroïsées comme l'ont fait les Américains, mais ces victimes singulières. Les victimes directes, indirectes, les proches, la population civile en général, que nous avons vécu au cours des attentats. Mais je prends beaucoup d'exemples dans d'autres contextes politiques et géopolitiques où les victimes civiles sont concernées par les violences en temps de guerre et par les actes de terreur. Et en particulier, il y a de très beaux textes, textes notamment des écrivains syriens. Donc je prends de nombreux exemples, si vous voulez, pour éclairer par la littérature, comme on l'a dit tout à l'heure, mon propos, qui est un propos de juriste, mais aussi un juriste ouvert sur d'autres disciplines, montrer que, si vous voulez, vous avez un récit, des récits, qui expriment la détresse, mais aussi l'espoir de ces victimes. Je pense à Assia Djebbar, la romancière algérienne, qui évoque dans ses ouvrages les morts de la guerre d'Algérie, la seconde guerre d'Algérie, celle des années 90. Vous avez énormément de récits liés aux dictatures sud-américaines qui ont pratiqué massivement les disparitions forcées, donc deuil impossible pour les victimes survivantes, et donc récits en hommage, si vous voulez, en tombeau, en quelque sorte, de ces victimes survivantes. Et puis, récemment, il y a eu ce livre étonnant de Samar Yazbek, une romancière, journaliste et romancière syrienne, dont je vous recommande la lecture, Les Portes du Néant. Les Portes du Néant, écrit sous les bombes, près, non loin d'Alep, où elle traverse le chaos de ces bombardements. Elle se compare à Scheherazade devant raconter un récit dans un contexte de péril imminent, avec, si vous voulez, le besoin de quoi ? De témoigner de la barbarie par un récit que seul elle ou ce témoin peut exprimer, à défaut d'en avoir d'autres, malheureusement. Alors, rapidement, les grands points de ce livre, pour que vous ayez une idée générale. Le premier point, c'est le moment de la sidération et de la solidarité que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui me frappe beaucoup dans cette affaire, si vous voulez, c'est la manière dont on sort de la violence. La violence soudaine nous sidère, comme je l'ai été à Nice, nous paralyse, nous détraque complètement, nous empêche d'agir. Mais en même temps, il y a, si vous voulez, des moments où on va échapper, si vous voulez, à cette sidération. Et j'ai été frappé dans cette démarche du rôle que la justice a joué, un peu pour la première fois. Je pense que le procureur de Paris, en particulier, a, par ses interventions régulières et ponctuelles dans les médias, c'était un peu la première fois qu'on voyait un procureur qui avait une aussi grande importance dans la prise de parole, a pu substituer à la sidération qui nous frappait un récit, le récit d'une enquête criminelle, et non pas le récit d'un exploit djihadiste qui allait s'anoblir par son acte lui-même. Donc le procureur, par son récit, ramenait cet événement qui était en quelque sorte glorifié par les réseaux sociaux de l'État islamique ou de Al-Qaïda à l'époque, ramenait au fond cet événement-là à un acte criminel qu'il fallait effectivement punir et dont il fallait traquer les coupables. Vous voyez, l'enjeu, il était là, et d'une certaine manière, a pu rassurer l'opinion publique par cette communication régulière et cette volonté de ne pas céder à la panique ou à la démagogie ou à la contre-violence, qui aurait pu être une tentation, comme les Américains après le 11 septembre, mais qui a rationalisé la réaction de la société et de la collectivité, en enfermant notre réaction dans le cadre d'un état de droit et d'une démarche procédurale qui est celle de l'enquête. C'était important parce que, si vous voulez, le propre des attentats djihadistes de ce type, c'est de nous placer dans le cercle de la violence pure, si vous voulez. Et dans le cercle de la violence pure, c'est la relation de guerre qui l'emporte. Donc est-ce que nous allions réagir à cette provocation violente par une guerre avec les mêmes armes, y compris terroriser les terroristes, y compris par les armes de la terreur, ou est-ce que nous allions réagir par les armes de l'état de droit? Mais je crois que l'intervention du procureur et l'intervention de la police, en l'occurrence, c'était plutôt de faire le pari de réagir par une démarche rationnelle dans un cadre conforme à nos valeurs démocratiques, même si, au bout du compte, il a fallu aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination des je pense notamment aux attentats de frères Kouachi et de Koulibaly, l'élimination de ceux qui, effectivement, voulaient mourir au combat. En tout cas, là, si vous voulez, j'attache beaucoup d'importance à ce moment parce qu'il me semble que la justice s'est grandie dans cette démarche-là et a pu, si vous voulez, nous permettre d'échapper à cet engrenage de la violence par sa propre rigueur dans la démarche suivie. Ensuite, j'évoquais la solidarité et la réaction de la population. Il y a un pays qui m'a beaucoup frappé de ce point de vue-là, c'est la Norvège après l'attentat de Breivik. Vous savez, sur le site, sur l'île du Toya. Et si vous voulez, parce qu'on a vu, alors là, pour le coup, une réaction, je ne sais pas si vous en souvenez, les images à l'époque, une réaction qui n'était pas du tout une réaction purement guerrière, ou même par une rhétorique guerrière, mais on a vu se déployer une rhétorique pure de l'état de droit face à un attentat qui a fait d'innombrables morts dans ce pays. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin les juristes qui sont là peut-être s'en souviennent, lors du procès de Breivik, Non seulement cet homme était assis à côté de son avocat dans la salle d'audience, paisiblement, et non seulement il faisait le salut nazi en commençant chaque séquence du procès, mais le procureur est venu lui serrer la main au début de l'audience, et les experts psychiatres de la même manière. Donc c'est une démarche forte, capable de signifier que cet homme-là n'est pas notre ennemi, on n'est pas dans le registre de la guerre, cet homme-là est un délinquant, un criminel, et à ce titre, il mérite le respect de la loi. Ça m'a semblé, même si ensuite il était condamné à une peine très longue, mais ça m'a semblé une manière de célébrer en quelque sorte l'état de droit. Et la population n'est pas restée inactive. J'étais frappé de voir, ça je l'ai vu dans les archives après, j'étais frappé de voir que, vous savez, Breivik avait dénigré une chanson populaire en Norvège qui était un hymne au multiculturalisme. Il avait méprisé le multiculturalisme au nom de la suprématie de la race blanche, comme vous pouvez vous en douter. Eh bien, quand il a eu ces propos méprisants lors de son procès, eh bien, la foule, ces foules innocentes, qui est le titre de mon livre, s'est réunie sur la place centrale d'Oslo et a chanté en chœur cet hymne pour opposer à ce mépris du tueur, sa force collective et son attachement à ses valeurs à travers un hymne que les enfants chantent dans les écoles, qui est l'hymne qui célèbre le multiculturalisme qui règne, auquel ce pays est attaché. Et ensuite, la marche blanche qui a pu se dérouler. Donc vous avez là sidération, solidarité, réaction démocratique, avec des déclinaisons différentes selon les pays. Je suis frappé je fais une distinction importante pour moi entre les cérémonies républicaines d'un côté, officielles, les marches républicaines gérées par les gouvernements, et puis les marches blanches que j'ai vues, qui sont nées à l'occasion des crimes pédophiles dans les années 90 et qu'on a vu réapparaître aujourd'hui à la suite des attentats. Eh bien, si vous voulez, ces marches blanches, c'est l'expression et ces chants qui les accompagnent, ou même ces silences, tout simplement, sont une manière pour la communauté de retrouver, en quelque sorte, non seulement sa dignité, mais peut-être une harmonie qu'elle avait, que la perte de la violence a voulu frapper, la disperser. Donc vous avez et je distingue beaucoup, si vous voulez, deux types de victimes, les victimes du devoir et les victimes du hasard. Les victimes du devoir, c'est la mort policière, la mort d'Arnaud Beltrame, si vous voulez, ces morts du devoir qui sont ritualisées dans les rituels républicains, qui sont perpétuées dans des mémoires corporatistes ou corporatives, qui sont célébrées comme l'appel aux morts des pompiers dans ces mémoires professionnelles, si vous voulez, et qui se perpétuent de génération en génération, mais qui sont figées dans ces rituels. Mais les victimes du hasard, celles que nous sommes, celles du Bataclan, celle du Stade de France et toutes les autres à Nice, elles n'ont pas les ressources. Alors le gouvernement vient effectivement à leur secours. On annonce un musée mémorial, on annonce des dates commémoratives. Mais si vous voulez, elles n'ont pas, si vous voulez, de mémoire institutionnelle sur laquelle appuyer leur résilience. Voyez. Donc elles sont obligées de construire leurs propres ressources différemment, très différemment. Certaines créent des associations. On l'a vu à Nice, on l'a vu aussi dans le passé, SOS Attentat et beaucoup d'autres. Elles sont très actives. D'autres trouvent leurs ressources dans d'autres domaines. Le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, est une manière pour lui de trouver une ressource dans la littérature qui accompagne sa reconstruction, Proust, Kafka, Thomas Mann, ces lectures qui lui ont permis de surmonter son traumatisme et qui lui ont permis d'accompagner sa reconstruction, alors qu'effectivement, il avait un long parcours à réaliser. Donc vous avez ces ressources différentes qui sont mobilisés dans le temps de la reconstruction, qui me semble extrêmement, extrêmement importante. J'ajoute que, si vous voulez, la justice joue un rôle extrêmement important dans ce parcours. Là, je distingue deux scènes de jugement. Je distingue la scène de jugement où l'État est face aux djihadistes, c'est-à-dire quand il y a un projet d'attentat qui a été déjoué, les auteurs comparaissent pour association de malfaiteurs terroristes. Donc il y a un face-à-face entre l'État, le procureur et, si vous voulez, les auteurs. Et c'est de très, très nombreux procès qui ont lieu d'ailleurs actuellement, soit à la 16e chambre de Paris, soit en cour d'assises. Et puis vous avez les scènes de jugement où les victimes sont là, parce que l'attentat a été réalisé. C'est l'affaire Mera, le procès Mera, qui a eu lieu en première instance l'année dernière, ou cette année, et qui aura lieu en appel en début 2019. Et alors là, c'est tout à fait différent. Quand l'attentat a été commis, ce n'est pas évidemment Mera, puisqu'il a été assassiné, enfin tué pendant l'assaut, mais c'est son frère, Abdelkader Mera, qui a été accusé de complicité et accusé aussi de fomenter un complot contre la sûreté de l'État. Donc vous avez là un procès où vous avez 250 parties civiles. Donc, si vous voulez, la dimension est totalement différente par rapport à des procès où simplement comparaissent des retours de Syrie ou des comploteurs ou des apprentis terroristes. Et là, on aura effectivement par la suite, on nous annonce le procès du Bataclan pour 2020, on nous annonce d'autres procès. Vous avez des procès immenses qui vont avoir lieu prochainement. Là, si vous voulez, le moment de la justice est très important pour les victimes et parce que quoi ? Parce que la justice pose une infraction et répond par la peine. C'est son langage habituel. Elle nomme un préjudice et elle répond par une indemnité. De la même manière, les soignants analysent un traumatisme et tentent de porter un soin. Mais il y a autre chose. Il y a la blessure profonde, ce que j'appelle la violation dans ce livre, subie par la victime. Et ça, si vous voulez, je pense pour ma part que la justice, le procès, l'audience offrent un espace de parole pour que, effectivement, elle puisse exprimer cette violation et donc son récit à travers le récit de sa blessure ineffaçable d'une part, et pour les proches, à travers la fidélité aux morts qui se manifeste. On a eu au procès Mera des moments extrêmement forts. Je pense à Laetitia Ziaten et toute sa famille qui ont eu des témoignages d'une très grande hauteur de vue, qui ont été salués par le public. On a beaucoup parlé lors de ce procès de la plaidoirie de Dupond-Moretti auprès d'Abdelkader Mera, mais on n'a pas parlé du silence de Dupond-Moretti quand les victimes ont témoigné. Ce silence l'honore beaucoup plus que sa plaidoirie, à mon avis, parce qu'elle était empreinte d'un respect très grand à l'égard de ce témoignage qui nous tirait vraiment tous vers le haut dans le procès lui-même. Il y a eu d'autres moments très forts, si vous voulez. Je pense notamment au procès de ce qu'on appelait le logeur de Daesh, cet homme qui avait hébergé... Le savait-il ou pas, il a été relaxé en première instance, mais il y aura un appel. Cet homme qui avait logé les tueurs de Abaoud et ses comparses, et qui, si vous voulez, a été confronté à un homme qui a dit « ces deux-là sont innocents, je les perçois comme innocents », un homme qui avait été victime de l'attentat au Stade de France, et qui a dit, si vous voulez, très fortement, que... il avait besoin, lui, d'être présent à l'audience, d'exprimer sa parole et son récit pour rester, disait-il, debout, me remettre debout. Donc on a là vraiment, si vous voulez, une sorte de dignité reconnue, d'espace de parole et une manière de sortir de l'incapacité, de la vulnérabilité et de retrouver une capacité d'agir, une capacité de parole à travers l'audience et l'instance. Et puis vous avez le travail de mémoire. C'est la dernière partie de ce livre qui est très important parce que Et vous avez vu qu'Emmanuel Macron a inauguré un travail de mémoire, a inauguré un comité mémoriel avec une proposition de créer un musée mémorial pour commémorer les attentats que nous avons connus. Et là, vous avez une tension très forte, très très forte, entre la mémoire vive, celle des victimes, de leurs proches, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était nouée à la fidélité aux morts et aux moments qui ont été vécus, et qui est assez intransigeante moralement, et qui n'est pas négociable dans ses désirs. Et puis vous avez l'État, les autorités, qui tentent effectivement de trouver des perspectives de construction mémorielle qui permettent effectivement de transformer cette mémoire en une histoire, c'est-à-dire à tirer vers l'oubli, en quelque sorte, ce que, effectivement, de l'autre côté, est tiré vers la mémoire. Donc vous avez cette tension entre la mémoire et l'oubli que j'ai vu à Nice à plusieurs reprises se dérouler, qui a animé les travaux de ce comité mémoriel au ministère de la Justice, et qui, effectivement, n'est pas simple à gérer, parce que, à mon avis, on ira vers un apaisement quand les procès auront lieu. Mais les grands procès de Nice, du Bataclan, n'ont pas eu lieu encore. Donc il y a une attente de justice très forte. Quand cette attente aura été peut-être satisfaite, un premier apaisement pourra intervenir et on pourra élaborer une mémoire dans le temps plus durablement. Et puis, on a dit tout à l'heure que ce livre était un livre aussi poétique, et j'y tiens, parce qu'il y a deux figures poétiques que j'ai mis en exergue. Le vent, d'abord. Le vent, c'est-à-dire le vent que j'ai vu, le vent de l'oubli, qui souffle très vite sur les ex-voto, sur les mémoriaux qui étaient là au Bataclan, qui étaient là sur la promenade des Anglais, et qui éloignent au loin les dessins d'enfants, les peluches, les petites chaussures, les portraits, les mots, les mémoires, les poèmes. Tout ça se disperse souvent. Vous savez que maintenant, on archive tout cela, on numérise tout cela pour garder mémoire de cette espèce de mémoire spontanée, populaire, au ras du sol, qui s'est manifestée à ces occasions-là, et qui va rester grâce à cela. Mais le vent de l'oubli est aussi très présent dans ce livre. Et puis, c'est aussi le vent qui entraîne le vent de l'adieu aux morts. Moi, j'étais frappé de voir à quel point le lâcher de ballon, si vous voulez, est une manière ultime de commémorer ou de célébrer un adieu aux morts dans le ciel de la promenade des Anglais en particulier. Quatre ballons, il y a une femme qui a lâché quatre ballons, ses quatre parents qui étaient morts lors de l'attentat, et ces quatre ballons sont envolés dans le ciel. Et en même temps, c'était un rituel d'adieu, si vous voulez, pour ceux qui sont partis trop vite. Et puis, à côté du vent, il y a l'arbre. L'arbre, qui est très présent dans la mémoire de ces attentats. Vous avez un arbre qui figure dans le mémorial de Ground Zero, qu'on appelle l'arbre de la survie. C'est le seul arbre qui a survécu, dit la légende, je n'ai pas allé vérifier, mais je veux bien le croire, après l'effondrement des tours, et il est présent là, il est encensé comme un objet quasiment sacré par la population de Manhattan. L'arbre, si vous voulez, l'arbre, d'abord, c'est un symbole de justice très fort au cœur de la cité, et c'est qui relie la terre au ciel, la terre où plongent ses racines et le ciel où va effectivement s'élancer ses branches. Vous avez cet arbre du Ground Zero. Vous avez l'arbre aussi, le magnolia, devant la maison du juge Falcon, c'est ce juge qui a péri lors d'un attentat alors qu'il enquêtait sur les crimes mafieux. Eh bien, la population de Palerme a en quelque sorte consacré le magnolia qui est devant sa villa comme un arbre sacré devant lequel on va se recueillir, déposer des objets de mémoire. Et régulièrement, cette population vient se recueillir au nom du martyr du juge Falcon. Et puis, il y a une réflexion aussi sur la peinture qui est très importante dans ce livre. Et je pense notamment, j'ai beaucoup revu les peintures de Goya pendant les désastres des guerres napoléoniennes, qui sont absolument saisissantes. Et dans ces eaux fortes de Goya, vous avez beaucoup d'arbres. Mais ce sont des arbres qui sont à la fois, en quelque sorte, éclatés sous la puissance de la violence de cette guerre, et en même temps qui se dressent vers le ciel comme une sorte d'imploration rituelle extrêmement, extrêmement, extrêmement forte. J'ai aussi une réflexion sur les massacres, le massacre des innocents de Nicolas Poussin, une peinture du 17e siècle, qui me semble tout à fait en résonance avec le Guernica de Picasso, qui a été peint au moment de la... au moment de la, du martyr de cette ville espagnole pendant la guerre d'Espagne. Donc vous avez là la mobilisation de la littérature et de l'art comme un moment, si vous voulez, de narration, de commémoration, de ritualisation qui vient effectivement s'opposer à la force de dévastation de la violence, de la provocation violente, qui me semble probablement une des réponses les plus fortes à ces attentats. Si vous réunissez ces récits, ces œuvres littéraires ou picturales, ces moments judiciaires très forts qui constituent, si vous voulez, notre réponse à la violence, vous avez la violence terroriste, vous avez là, je pense, une manière d'écrire l'histoire qui n'est pas une histoire écrite par les bourreaux, par ceux qui nous ont imposé cette violence, mais une histoire qui sera écrite par la population civile, qui pourra effectivement dire, grâce à ces récits, qu'elle est restée debout, et qu'elle a pu effectivement regarder l'avenir avec confiance. Voilà à peu près mon propos dans ce livre. Je termine sur une note optimiste malgré tout.